radio. Hein. Ah bon, alors.
Les rencontres d'Elios,
l'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommery.
Les rencontres d'Elios
avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien. Nanana.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux qu'elle y aille.
Est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival ?
Non, ce n'est pas la première fois. Maintenant, ça doit être peut-être la quatrième année consécutive. Donc voilà, donc pour nous, maintenant, c'est un peu des rendez-vous incontournables blésois.
D'accord. Et comment vous avez connu un petit peu le festival ? Parce que vous êtes de Blois ou
Non, pas du tout. On est arrivé il y a 5 ans. Et voilà, comme on aime tout ce qui tourne autour de la culture, forcément, les BD, ça nous intéresse. Et puis, forcément, papa de deux enfants, on avait aussi envie de transmettre la passion de la lecture et à commencer par les BD parce que c'est quand même assez très abordable pour les enfants.
D'accord. Vous lisez également des BD
Oui. Depuis... Tout le temps.
D'accord.
Voilà.
Bah, je vous remercie.
Bah, je vous en prie, c'est moi. Au
revoir. Ouais, carrément. Du coup, vous êtes éditrice, c'est ça ?
Non, moi je suis artiste-auteur, je fais de la gravure féministe. Et du coup, je m'appelle Amy et je partage un atelier à la Maison de la BD.
D'accord.
Du coup, gravure féministe, je fais surtout de la linogravure, de la sérigraphie en collaboration avec Tendre Papier. Je fais du pochoir aussi. Et féministe parce qu'on voit dans mon travail, on voit des corps, beaucoup de corps, des vulves, des seins et des paillettes. Et il y a mon compère Philippe à côté, Philippe Erlos, qui fait aussi de la linogravure avec des super jeux de mots sur le vin. Voilà, donc on est une team d'artistes qui font de la linogravure, surtout.
Très bien. Dans le fululu. Dans le fululu.
Voilà.
Et tout ça, c'est à vendre ?
Ouais, tout ça, c'est à vendre.
Okay. Et du coup, vous êtes de Blois ?
De Blois, ouais. On est tous les deux de Blois.
Vous avez le stand depuis hier ?
Depuis hier.
Et on a eu du passage ?
On a eu du passage et notre stand, ça s'appelle Au Vitriol parce qu'on a des idées qui décapent.
Ouais. Et des dessins qui décapent.
Et des dessins qui décapent.
C'est chouette. Bon courage.
Merci.
Bon courage à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions sur le festival
C'est juste deux questions. Si elle est... Ouais, vas-y.
Eh bien, nous sommes comme vous, on regarde le festival BD Boom, on est bénévole. Et on voulait vous demander si c'est la première fois que vous veniez pour ce festival.
Alors moi, c'est la première fois.
Moi, ça fait quelques fois que je viens parce que j'habite à Blois.
D'accord. Et comment vous avez connu par rapport à votre amie, les deux ?
Moi, j'ai connu par rapport à elle, ouais.
Oui, moi, c'est parce que j'habite là et puis mon conjoint est journaliste, donc
d'accord.
Il est en train de bosser ici aussi, lui.
Et vous aimez bien le rapport à tout ce qui est la bande dessinée, le dessin ?
Oui, surtout les dessins. Puis là, avec elle, l'expo sur les petites bêtes, c'était hyper intéressant.
D'accord. Bah oui, c'est marrant, c'est bien. Et vous, en tant qu'adulte, vous lisez un petit peu des bandes dessinées ?
Pas tant que ça, non.
D'accord. Bah, je vous remercie.
Merci.
Qui compte ? Je te montrerai les miennes.
Ouais, on voit des ados, peut-être. Question, mais on est une émission de radio sur un peu festival. Vous êtes...
Vous êtes toute une famille, c'est ça?
Pas vraiment.
Recomposée.
Recomposée, ouais.
D'accord. Donc, c'est la première fois que vous venez au festival?
Oui. Ouais, c'est la première fois, on est d'Amboise.
D'Amboise, d'accord.
Ouais.
Et comment vous en avez entendu parler?
C'est des amis qui habitent Blois et du coup ils m'ont conseillé de venir parce que j'ai des enfants qui sont fans de BD.
D'accord.
Donc c'est la première année où on vient.
C'est bon. Et vous êtes tous contents d'y être?
Oui. Les enfants, ouais. Vous êtes contents?
Oui,
les enfants.
Oui.
Il y a un petit peu du monde pour circuler, mais oui, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire. Mais effectivement, quand on repère, enfin mes enfants ont repéré des choses qui les intéressaient, voilà, ils sont contents, mais après on n'a pas accès à tout.
Oui.
Voilà, il y a beaucoup de monde.
Oui, c'est ça, il y a ce stand-là, puis un autre stand. Donc,
oui.
Bah, donc, ça, on n'y est pas allé encore.
On n'y a pas été encore.
Et qu'est-ce que vous recherchez un petit peu dans tout ce qui est bande dessinée? Quel genre vous aimez bien?
C'est plus les enfants qui...
Ouais, c'est plus les enfants qui sont...
légendaires.
Les légendaires.
Les mortels Adèle.
Mytho.
Ouais. Et je sais pas.
Voilà, à peu près.
Et vous, les grands, pas trop.
Bah, on regarde, on s'intéresse à de nouvelles BD, mais sinon. Oh.
Et toi, Auguste, tu fais autre chose qui t'intéresse? Non. Donc voilà, c'est à peu près tout. Mais une belle expérience.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous êtes intéressé pour répondre à deux questions?
Si vous voulez, oui.
Alors d'abord, est-ce que vous connaissez le Festival de Blois? Vous êtes du coin?
Pas du tout, ça fait... je suis né à Blois, mais il n'y a que 4 mois qu'on est arrivé ici définitivement.
D'accord.
Vous voyez, mais on a entendu beaucoup parler du Festival BD Boom, donc on suit... j'ai ma sœur qui travaille au festival déjà, donc elle me donne de la pub là-dessus. Et je suis un amateur de bande dessinée comme mon épouse, vous voyez.
D'accord. Qu'est-ce que vous aimez bien lire en général comme style?
Des nouveautés. C'est assez hétéroclite comme choix, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être sur la gastronomie, ça peut être sur le fantastique, ça peut être sur des histoires vraies, des histoires... voilà. Un petit peu de tous les domaines.
Vous aimez bien tout ce qui est varié?
Oui. L'image m'intéresse plus que le... Enfin, le contenu beaucoup, mais l'image, comment c'est fait, voilà.
D'accord. Donc c'est la première édition Festival BD Boom que vous faites?
Oui, tout à fait. Première fois qu'on assiste ici.
Et qu'est-ce que vous avez vu pour l'instant qui vous fait plaisir?
Il n'y a qu'une demi-heure qu'on est arrivé, donc on va revenir demain toute la journée.
Ah, oui.
Et pour voir un petit peu, mais après si, c'est des rencontres, les rencontres des auteurs, pouvoir discuter comment ils travaillent, comment ils créent, comment ils arrivent à trouver des histoires, voilà, c'est... Et puis les voir travailler, ouais, j'ai vu en deux minutes une dédicace, là, il a fait ça devant nous, ouais, c'est vraiment du génie, quoi.
Oui, en effet.
Ouais.
Oui, vous avez pris des bandes dessinées récentes. Là, La Loire, va
Et Kamalari qui est très bien là sur les... C'est sur les violences, c'est ça, hein?
Enfant esclave.
Enfant esclave. Et ça, c'est autour de la gastronomie, la cuisine, l'histoire de l'évolution et comment ça se passe.
Ok, super. Là, je vous remercie.
Merci à vous, madame, monsieur.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Maxime Garbarini. Je suis le créateur du label Close Call Comics, où en fait on publie des histoires qui se réclament du comics américain, mais fait par des personnes qui ne sont pas américaines en l'occurrence. Et toutes les histoires qu'on publie se passent dans le même univers. On propose aussi des ateliers d'initiation à la bande dessinée et au dessin, dans lequel on partage un peu le temps d'atelier entre créer un univers, travailler la narration, construire un personnage, construire l'arc narratif de ce personnage, et en parallèle, donner aux participants des notions d'anatomie, de perspective, de découpage évidemment, de cadrage. On aborde également tout ce qui est ancrage, lettrage, donner une voix au personnage. Enfin, c'est assez complet, c'est des petits ateliers qui sont bien denses, bien riches, et on essaie de baliser un peu tout le terrain des savoir-faire ou des choses qui interviennent dans la création d'une bande dessinée.
D'accord, donc au niveau écriture aussi?
Au niveau écriture aussi, tout à fait.
Alors, oui. Ok, pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Ben, en fait, il y a une petite le premier atelier, ça démarre de façon un peu ludique parce qu'on s'adresse à un public en général assez jeune. Ludique dans le sens où comme on sait qu'on a des ateliers qui sont limités dans le temps, il y a une façon un peu de les mettre sur le tremplin de la créativité en leur proposant toute une liste de mots-clés. On leur dit essayer d'associer des mots-clés pour voir quel type de personnage ou quel type de récit ça peut créer. Donc là, ils ont plus d'une centaine, non peut-être pas une centaine, mais une bonne soixantaine de mots-clés à leur disposition. Et en fait, ça permet de, sans forcément perdre du temps, parce qu'on a peu de temps avec eux, ça permet de tout de suite commencer à découvrir, à explorer des concepts auxquels ils n'auraient pas pensé avant de venir. Donc c'est assez ludique. On fait ça également pour le look des personnages. Ils ont tout un tas de mots-clés qu'ils peuvent cocher. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est qu'en général, les jeunes cochent tout un tas de mots. Ils veulent que leur personnage ait une épée, un glaive, un arc, une capuche, tout ça. Et à la fin, je leur dis, attention, vous allez devoir dessiner votre personnage. Donc, si vous le chargez de marqueurs identitaires au niveau visuel, va falloir le dessiner dans chaque case avec tout ça. Donc, en général, ils effacent. Et sur l'écriture aussi, bon, bah, ce que j'essaye de faire avec eux, c'est essayer de leur expliquer un peu la structure qui peut être. Bon voilà, on présente un personnage, on lui donne un peu une sorte d'épreuve ou de quête, par exemple, et on essaie de travailler le rythme et la progression des obstacles qu'il va rencontrer et pourquoi tel obstacle. On travaille aussi beaucoup sur le contexte de l'histoire. J'essaie de leur montrer que ça peut être très important de situer leur histoire à telle époque, dans telle culture ou dans tel pays, et de voir aussi s'ils veulent inventer bien sûr tout ça de toutes pièces. Et je leur explique à quel point ce contexte peut déterminer le type d'histoire concret, tout comme il peut aussi également déterminer la façon dont vont se parler les personnages entre eux en fonction de comment ils auront construit leur personnage, de leur identité, de leur milieu d'éducation, de leur tempérament. Un personnage qui est plutôt type nerveux, il va avoir tendance à faire des textes, des bulles un peu plus courtes, un peu plus sèches. Il va avoir tendance à aller droit au but, là où on va avoir un autre personnage avec un tempérament plus doux, plus réservé. Enfin, j'essaie de leur montrer vraiment que chaque personnage doit avoir une voix et une raison d'être dans l'histoire, et de leur dire vraiment, des fois, même si vous n'avez pas d'histoire ou pas d'intrigue, juste en créant des personnages suffisamment forts et en les confrontant, vous pouvez partir déjà sur des écritures de petites scènes qui peuvent être intéressantes.
Pouvez-vous nous parler aussi de votre métier d'éditeur?
Oui, bien sûr. Alors moi j'ai commencé, j'ai commencé juste par écrire et dessiner ma propre histoire sous forme de webcomics en fait, qui était diffusé sur internet gratos à raison d'une page par semaine. Donc là il s'est créé une petite communauté de lecteurs d'un peu près 600 personnes. Ensuite ça a été publié chez un éditeur associatif sous format livre, donc là j'ai rajouté des pages. Et mon ambition, ça a toujours été aussi d'écrire pour d'autres auteurs et d'étoffer aussi l'univers que j'avais commencé à créer. Donc je me suis dit, bon bah autant lancer une association et créer notre propre petit micro-univers dans lequel on allait pouvoir s'amuser ensemble. Et j'ai pris le métier d'éditeur un peu à cœur, au sens où j'ai fait une formation auprès du Labo de l'édition et d'Innovo. À l'époque, c'est deux organismes sur Paris qui proposaient une formation qui s'appelle Edi Startup et qui était en fait encadrement de projets éditoriaux. Et donc cette formation m'a permis d'acquérir certaines bases ou certaines connaissances sur ce que ça voulait dire mener un projet éditorial. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et après, le côté éditeur au quotidien, c'est d'aller chercher les auteurs avec qui travailler, de les encadrer au mieux possible pour qu'ils soient à l'aise. Surtout que moi, je travaille avec des auteurs qui ne sont pas forcément francophones, donc une Italienne et un Péruvien. Moi, je ne parle ni italien ni espagnol, donc on converse en anglais. Et le métier d'éditeur, je le vois comme un accompagnement, en tout cas pour l'instant, et un choix, quelqu'un qui fait les choix aussi de qu'est-ce qu'on va sortir, à quel moment. Mais aussi beaucoup d'accompagnement des artistes, faire en sorte qu'ils soient à l'aise pour qu'ils créer et qui ne se sentent pas étouffés par l'histoire ni étouffés par l'éditeur non plus d'ailleurs. Et le boulot pour moi d'éditeur, c'est aussi beaucoup les choix stratégiques pour le développement du label. Donc ça va être qu'est-ce qu'on fait comme événement, à quel salon on se rend, comment aussi on gère le budget, sur quoi on va mettre l'accent, sur quoi on va, quels chantiers sont les plus importants. Là par exemple, nos deux prochains chantiers, ça va être le site internet et aussi d'essayer de développer des partenariats avec les librairies spécialisées comics pour continuer à étendre la diffusion de ce qu'on sort, en fait, des livres qu'on fait, quoi.
Des auteurs italiens et péruviens.
Oui.
Ils vivent en France ou
pas du tout?
Pas du tout. Ils sont dans leur pays. Et comment, voilà, vous avez pu les rencontrer?
Alors, je les ai pas encore rencontrés. On s'est vus en visio sur internet. En fait, je les ai trouvés, on va dire, en faisant une recherche, en ayant vraiment en tête le type d'histoire et le type de personnage que je voulais mettre en scène. Et je me suis dit, je vais aller à la découverte de talents que je ne connais pas, donc qui ne sont pas dans mon entourage. Et sur le site qui s'appelle ArtStation, il y a tout un, c'est un site en fait où vous avez le portfolio d'artistes dans tous les domaines, que ce soit l'animation, le character design, la BD. Et grâce à ce site, je suis tombé sur leur profil. Ça fait partie des 4-5 personnes que j'ai contactées, en leur expliquant un peu mon projet, d'avoir un univers partagé, en leur expliquant qu'il y avait déjà aussi une première saison d'un album qui posait les bases de cet univers. Et ensuite, je leur ai expliqué le pitch de l'histoire que j'envisageais de faire avec eux s'ils étaient intéressés. Et ils étaient emballés, en fait. Ça s'est fait comme ça.
Ouais. Ce premier projet, c'est Fragment.
Oui, tout à fait. Ça s'appelle Fragment. C'est une anthologie qui fait 160 pages à peu près et qui contient 4 épisodes. Donc la suite de la série Heroix, qui a déjà connu un premier album et qui est une sorte de série, on va dire, pilote dans laquelle on présente vraiment l'univers. Et il y a 3 mini-séries qui viennent compléter cette histoire et qui mettent en scène des nouveaux personnages, mais qui se situent quand même dans le même univers. Donc on a des personnages secondaires en commun, on a des lieux en commun, notamment une ville fictive qui sert de toile de fond aux histoires. Mais ces 3 mini-séries, donc il y a Whisper, Blood Rose et Dream Brother, mettent en scène des personnages différents, des ambiances différentes, des genres différents, parce qu'on aborde le thriller, le polar, la comédie romantique. Et ça me permet, moi, dans la ville fictive que j'ai créée, aussi d'explorer la ville à travers différents aspects. Par exemple, dans Whisper, on aborde surtout le côté très ouvrier, très populaire de la ville. Blood Rose, tout va se passer dans les librairies, les cinémas, le côté très romantique, très, on va dire, extérieur de la ville, les parcs, etc. Alors que dans Dream Brother, là, c'est des enquêtes policières, donc ça se passe beaucoup la nuit, dans les bas-fonds. Avec ces 3 histoires, en fait, on commence à dessiner la carte de ce que peut être vraiment cette ville qu'on a inventée. Ouais.
Vous attendez un univers qui va se développer dans d'autres, oui, numéros.
Exactement. Ouais. Le but, c'est de terminer ces 3 mini-séries avec ces 3 auteurs et ces 3 personnages. Et une fois que les 3 épisodes de ces séries seront sortis, les 3 volumes, on va dire, on enchaîne avec d'autres mini-séries, d'autres auteurs, d'autres personnages, d'autres genres aussi, d'autres couleurs, d'autres saveurs d'histoire, en fait.
Merci, Maxime.
Merci à toi.
Merci beaucoup, Maxime.
Merci beaucoup.
J'ai fait couler sur tes joues rondes les larmes de l'amitié, oublié nos promesses et rougi tes yeux bleus, sans t'expliquer pourquoi, sans demander pardon. J'ai marché sur nos rêves et me suis égaré avant que tout commence. Déjà la fin, si je ne chéris rien, je n'ai rien à pleurer. Faux départ, nous sommes là, antidote au désespoir, danse de joie. Fait m'évader et emmener danser au rituel du banquet. J'apprends à écouter le soir sur les parquets. La tête nous a tourné, des bambins trop habiles, des anciens rajeunis. Je retrouve mon souffle au sein de mes amis. Faux départ, nous sommes là, antidote aux idées noires, danse de joie. grâce mortelle, nous devons vivre libres. Maman avait raison, vos passions, vos idées nourrissent mes désirs et me donnent aussitôt le goût de vous le dire.
Bonjour.
Vous êtes sur le stand de Comics Initiative.
Oui.
Pouvez-vous vous présenter?
Je suis Tony Muriot, ça on vient de le dire, donc ça n'a pas grand intérêt. Mais je suis scénariste et illustrateur, enfin auteur de bande dessinée, qui oscille assez régulièrement entre le scénario et le dessin.
Quel est ton parcours dans la BD?
Mon parcours dans la bande dessinée, il a commencé il y a environ un peu plus de 10 ans, je dirais. C'était en 2000... J'ai plus la date, donc je vais rien dire, parce que sinon je vais dire une bêtise. Mais c'était, je crois que c'était avant 2010. Donc ouais, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans, pour sûr. Ça a été, dans un premier temps, Olivier Suppiot qui est venu me chercher. Moi, je prenais des cours à l'atelier de la boîte Kiffebeu, à Angers, qui est un atelier d'auteurs de bande dessinée qui se réunissent entre eux pour monter des albums, et à l'époque j'y allais uniquement pour prendre des cours. Et je suis resté là-bas, et je pense que je ne serais jamais passé professionnel si Olivier n'était pas venu me chercher en me disant « Je pense que il y a quelque chose, t'as le niveau pour proposer à des maisons d'édition. » Donc ça a démarré comme ça. Et puis après, du coup, le reste s'est enchaîné assez naturellement. Il n'y a pas d'histoire de parcours, enfin, en tout cas, moi je vois pas de... Je propose des dossiers, les éditeurs disent oui de temps en temps, et puis voilà, on fait des bouquins à partir de là.
Donc tu es dessinateur et scénariste?
Ouais, beaucoup plus souvent scénariste que dessinateur, parce que le dessin, c'est pas un processus simple chez moi. Enfin, en tout cas, c'est pas aussi évident que chez certains. J'ai peut-être pas suffisamment travaillé, ou peut-être que je sais pas, j'ai des blocages à régler. Mais le scénario, aujourd'hui, me semble plus fluide. Est plus évident et plus immédiat que le dessin. Mais j'ai quand même des velléités de dessiner, donc tu vois, je suis un peu compliqué comme garçon.
Ça marche. Donc là, tu es sur le projet de Paria,
ouais,
le tome 3, qui va arriver bientôt.
Qui va arriver en 2025, premier semestre pour sûr. Puis c'est dans les rails, hein, il est quasiment écrit, il n'est pas encore formalisé dans le sens où il est découpé niveau écriture. Mais là, on va s'y mettre très bientôt. Boris finalise un projet sur lequel il était depuis je ne sais pas combien de temps, quelques mois, pour une autre maison d'édition, et puis après on réattaque Paria, avec une grosse envie de s'y remettre l'un comme l'autre.
Ça marche. Donc Boris Besma, qui est à côté de toi,
tout à fait.
Qui est dessinateur de Paria.
Exactement.
Qui dédicace actuellement, sur Paria, voilà. Qui ne peut pas beaucoup parler.
Si, je peux parler, si. Mais si le micro prend d'ici, je peux parler.
Tu peux décaler.
Bonjour.
Tu peux me parler de ton travail et te présenter?
Alors, donc moi je suis Boris Beuzelin, et comme mon ami Tony, je suis aussi auteur de bande dessinée. Alors moi c'est l'inverse de lui, je suis plutôt dessinateur, bien qu'ayant des velléités de scénariste. Mais moi c'est le scénario qui est compliqué pour moi, donc moi je préfère me concentrer sur le dessin. Et avec Tony, donc on fait cette série Paria qui... passe dans un univers imaginaire de Paris de la fin du 19e, voilà, qui raconte les aventures d'un groupe de personnes assez étranges. C'est du pseudo steampunk, on va dire, mais c'est pas du steampunk vraiment assumé au sens classique du terme. Je sais pas s'il y a un classique du steampunk, mais bon, ça oscille dans des univers à la steampunk, à la Jules Verne, à la... bon voilà, de la mécanique, de la vapeur, et un univers imaginaire en tout cas.
Et devant toi, tu as aussi Carton Blême, est-ce que tu peux nous en parler?
Alors Carton Blême, c'est autre chose, c'est un récit policier qui a été écrit par un romancier qui s'appelle Pierre Signac, enfin qui s'appelait Pierre Signac, il est décédé maintenant il y a longtemps. Et Pierre Signac avait écrit dans les années 80 une histoire avec donc Carton Blême qui était un roman policier d'anticipation qui se passait en 2005. Voilà. Donc cette histoire-là, ça dépeint un futur extrêmement pessimiste, dans lequel les personnes sont catégorisées en fonction de leur état de santé. Donc si on est en mode santé, on a un carton bleu qui nous donne accès à divers droits. Et si par contre on est en mauvaise santé, en dessous d'un certain seuil, on a un carton blême, pour le coup, on perd tous nos droits, y compris même le droit d'être protégé par la police si on se fait agresser dans la rue, voilà. Parce que le trou de la sécu et les finances étant catastrophiques, on a décidé de faire des économies, et c'est le moyen qu'on a trouvé pour faire de grandes économies.
Merci Boris.
Vous êtes du coin pour avoir connu le festival?
On vient d'à côté de Vendôme.
D'accord.
On est du Loir-et-Cher, pas très loin. Et on a connu le festival grâce à l'école.
Grâce à l'école?
Oui. Les enfants avaient fait une sortie le vendredi, le premier jour du festival.
Cette année?
Non, c'était il y a 4 ans maintenant.
Ça veut dire que vous revenez toutes les années?
Depuis, oui. D'accord. C'est vraiment grâce à cette journée qu'on a découvert le festival.
Et vous voyez une évolution un petit peu depuis la première fois que vous y êtes allé jusqu'à, par exemple, ce week-end?
C'est toujours le plaisir de pouvoir rencontrer les auteurs, les illustrateurs. On découvre de nouvelles œuvres et c'est un plaisir de retrouver des œuvres qu'on connaît déjà et puis de découvrir de nouveaux auteurs.
Merci.
Merci à vous.
De rien.
Bon après-midi. Merci aussi.
Du coin, ouais, c'est la deuxième fois qu'on. Moi, c'est la deuxième fois que je viens.
D'accord.
Moi, c'est la première fois.
La première fois.
Oui.
Puis on vient rejoindre des amis qui font le festival.
D'accord. Ils sont.
Ouais, c'est ça. Ils ont leur stand.
Oui.
Ah oui, d'accord.
C'est ça, exactement. Ils ont leur stand, donc on vient leur faire un petit coucou et.
Entre temps, voilà, on tournait, on regardait un peu ce qu'il y a en général, voilà.
Vous aimez bien les
dessiner en général, lire, c'est parce que c'est un événement culturel, donc vous avez envie d'y rejoindre ou ce qui vous attire.
C'est une belle question.
Non, je lis pas beaucoup de BD, c'est plutôt les dessins qui m'intéressent. Et je sais que tu as quelques artistes qui sont là pour des... c'est comme des posters un peu, qui font des affiches. Et c'est ce genre d'artistes que je viens chercher, ouais, exactement.
Voilà. Moi perso, voilà, bande dessinée, j'aime bien, mais c'est plutôt au niveau des dessins. J'aime pas trop les lire, hein, c'est pas mon genre de truc. Mais comme regarder, voir au niveau des posters, au niveau des livres, un peu ce qu'ils proposent, pourquoi pas, c'est toujours intéressant.
Merci,
merci
à vous.
Beaucoup à vous.
Bonne journée, bon courage.
Bon courage.
De commenter, mais okay. C'est pas long, je pense.
Non, là pour à peine 10 minutes, pour qu'on parte aussi en rencontre.
D'accord.
Et votre nom, c'est parce que du coup...
Pardon,
votre...
Philippe Morin, oui, pardon, Philippe Morin, voilà.
Ok, ça marche. Tu viens. Bah, c'est bon. Bonjour, monsieur Philippe Morin, vous êtes éditeur de PLG.
Voilà. PLG, c'est une association qui existe depuis plus de 45 ans, qui au départ éditait un fanzine de bande dessinée qui s'appelait PLG PPUR, plein la gueule pour pas un rond. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, le fanzine s'est arrêté et on a créé une collection de livres sur la bande dessinée, la collection Mémoire Vive. L'idée, c'était que le type de fanzine qui existait jusqu'aux années 2000 était des fanzines qui proposaient des entretiens d'auteurs ou des bandes dessinées de jeunes dessinateurs. Et Internet a un peu mis fin à tout ça, puisque les entretiens d'auteurs, il suffit sur un moteur de recherche de chercher le nom d'un grand dessinateur et vous obtenez des entretiens gratuitement, etc. Donc on a dit qu'il fallait qu'on continue à écrire et à interviewer les gens, mais qu'on le fasse dans un format livre beaucoup plus complet et détaillé, d'où l'idée de créer cette collection Mémoire Vive qui mélange à la fois des monographies, des ouvrages sur des pays. Par exemple, on a fait 5 pays, on a exploré les bandes dessinées de 5 pays, etc. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a 49 titres et l'année prochaine, on devrait publier le 50e titre de la collection.
Vous éditez, le premier fanzine est sorti en quelle année ?
78. Le numéro 1 de PLG PPR était sorti pour un festival qui était à Clichy en région parisienne. Et il était sorti le 1er avril 78 comme un poisson d'avril. Et pour la petite histoire, à Blois, il y a une exposition à la bibliothèque
Abbé Grégoire.
Et vous avez dans une vitrine le fameux numéro 1 de PLG PPUR.
On va aller voir ça. Et vous avez aussi, par exemple, je pourrais Planeta Ready. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'historique de cet ouvrage ?
On vient de publier effectivement un ouvrage très important pour moi. Enfin, c'est un ouvrage qui va compter dans la collection. Déjà, en termes de fabrication, c'est un ouvrage de 432 pages en couleur. Son titre, c'est Planeta Ready, l'aventure d'Artima Ready vécue de l'intérieur. Benoît Bond, qui a écrit le livre, est un garçon qui a été maquettiste chez Aredit. Aredit est un éditeur de Tourcoing qui n'existe plus aujourd'hui, qui a longtemps régné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80, qui était l'un des 5 éditeurs de Pocket de Gare, c'est-à-dire les fameuses éditions de petites revues pas très bien imprimées avec un mauvais papier qui faisait beaucoup de traductions de BD étrangères, espagnoles, anglaises, d'un peu partout dans, et même américaines, puisqu'ils avaient racheté les droits de DC pour quelques séries emblématiques américaines. Et donc là, on raconte l'histoire de cette maison d'édition que les historiens, si vous regardez les histoires de la BD qui existent, on en parle très très peu parce qu'on ne savait rien sur cette famille. Et Benoît Bont a eu accès aux archives de la famille, a eu accès à plein de documents et on raconte toute l'histoire de ce... Il faut imaginer que dans les années 60, fin des années 60, début 70, les éditions Aredit publiaient 70 mensuels de ce type qui étaient vendus à 100 000 exemplaires à peu près, et les invendus, s'ils revenaient, ils étaient revendus derrière sous un autre système. Donc c'était une production annuelle, vous faites 70 par 100 000 et par 12 et vous avez donc des dizaines de millions de revues de cet éditeur. Donc à l'époque où Dargo vendait que 2 millions d'exemplaires de Lucky Luke ou d'Astérix, ben ce monsieur il avait une production beaucoup plus grande. La qualité n'était pas toujours au rendez-vous, mais ce qui nous importe dans ce livre, c'est de montrer quand même l'importance sur le lectorat, puisqu'il y a une nostalgie. Aujourd'hui, vous avez les gens qui lisaient ça il y a 30 ans, ils ont mon âge, et ils trouvent amusant, je pense qu'ils ont envie de retrouver ces lectures d'enfants, parce que ça s'adressait à un public de jeunes adolescents quand même.
Ça a pris combien de temps pour faire ce livre ?
Pardon ?
Ça a pris combien de temps ?
Alors, Benoît Bonte a commencé à l'écrire il y a 8 ans. C'est-à-dire, c'est 8 ans d'études, de recherche, de rassembler des documents, d'interviewer des témoins qui ont travaillé avec lui. Parce que comme la complexité de cet éditeur, c'est pas simplement de demander à un auteur de produire des planches et de les publier, c'était du matériel étranger qu'il fallait traduire en français. Donc il avait un studio sur place avec des gens qui enlevaient les textes en allemand, en anglais ou en italien pour aller mettre les textes en français. Et puis il y avait un problème d'homothétie du format. Souvent les BD qui paraissaient dans les pays d'origine étaient publiés dans des revues qui n'avaient rien à voir avec le format final d'Artima, qui était à peu près toujours le même à cette époque. Donc il y a tout un travail et ça on le montre dans les livres en comparant la version originale et la version française, un retravail de proportions de cases. Alors il y avait des retoucheurs de cases, des gars qui venaient rajouter un centimètre de jungle en haut à droite, parce que sinon il y avait le titre en anglais ou il y avait un truc qui n'allait pas. Ils gouachaient les noms des auteurs, c'est-à-dire la grande technique, et c'est ça pour les historiens, de savoir qui dessinait tout ça, c'est un cauchemar, parce qu'ils ne voulaient pas montrer le nom des auteurs. Voilà, donc c'est ce travail de fourmi que Benoît Bonte a fait pendant toutes ces années.
Et à l'instar des éditions Lug, par exemple, où il y a beaucoup de censure, est-ce qu'il y avait de la censure
aussi ? Alors, vous avez tout à fait raison, puisque comme Lug avec les super-héros, Arédit a eu des soucis avec la censure française, qui regardait tout ça d'un sale œil. Alors, c'était... Vous savez, la censure en France a fait des problèmes avec les éditeurs belges. Dupuis, Spirou a eu des soucis. Il y avait aussi du côté français, on utilisait cette fameuse loi 1948 sur la jeunesse pour aussi empêcher l'invasion de bandes dessinées. Dans le cas de Lux, c'est parce que c'était du comics américain et qu'il fallait trouver mille raisons pour ralentir l'arrivée de ces comics. Et chez Arédit, c'était parce que c'était du matériel importé, qu'on lui reprochait de la violence. Mais c'était bizarre parce que dans les revues françaises, la violence n'était jamais retoquée, elle était plutôt retoquée là. Et alors une petite anecdote qui peut être amusante, qui est racontée dans le livre, comme ils achetaient du matériel espagnol par exemple, il y avait des bandes dessinées de guerre dessinées par des Espagnols qui ont été traduites dedans. Et vous savez qu'à l'époque de Franco, jusqu'en 77, les BD espagnols qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale disaient plutôt du bien de l'armée allemande, par exemple sur le front de l'Est. Pour eux, les Espagnols, les Allemands avaient résisté contre les bolcheviks, donc il y a beaucoup de bandes dessinées de guerre qui étaient à la gloire de l'armée allemande et qui expliquaient que les bolcheviks étaient des terroristes. Et un jour, l'éditeur ne s'est pas rendu compte, il n'a pas lu la bande dessinée, mais ça racontait exactement ce que je viens de vous dire. Et il y a même des ministres qui ont su qu'on avait fait l'apologie de l'armée allemande dans une revue française, qui ont menacé d'interdire. Il y a eu des gros problèmes, il a dû aller s'excuser, mais parce qu'il avait un grave défaut, ce brave éditeur, c'est qu'il ne lisait pratiquement pas ce qu'il publiait, voilà.
C'est embêtant.
C'est embêtant.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un même livre sur l'éditeur Mon Journal, par exemple ?
Alors, il y a un autre garçon à Paris qui a une librairie Fantasmac, Gérard Thomasian, qui fait des encyclopédies aussi sur ce type d'éditeur. Et je sais qu'il ne voulait pas s'attaquer à Reddit parce qu'il savait qu'on faisait ce livre-là. Et je me demande si l'éditeur que vous citez, il ne l'a pas déjà fait. D'accord. Mais lui, il met moins de discours critiques. Il va mettre énormément de reproductions de couvertures. Et c'est vrai que nous, on a voulu raconter l'histoire. C'est une véritable aventure éditoriale qui n'existera plus, je pense.
Merci beaucoup, monsieur.
De rien.
Merci.
Ça vous allait ?
C'est génial, c'est super. Bon, vous étiez super passionnant. Ouais. On sent que vous voyez. Ouais, j'ai pris celui-là parce que je sais que
vous l'avez pris, hein, d'accord.
Non, je le prendrai plus tard.
Oui, il n'y a pas de souci.
En exemple, c'est vrai qu'on a pu en parler d'Antoine, Marc-Antoine Mathieu, par exemple, ou Jean Solé aussi, qui sont.
C'est une émission BD que vous faites ?
Sur
c'est ça ?
Sur BD Boom, sur le festival.
Ah, génial. Voilà. Okay. Donc, merci.
Dans le cas de Sinozef. À ce moment-là, vous avez une carte ?
Alors, j'ai pas une carte, mais je vais vous laisser. Je vais vous donner.
Je vous envoie le lien pour la.
Ben voilà, exactement. Je vais vous donner une. Ça, c'est la pub de l'expo fanzine dont je m'occupe.
Ah oui.
Mais je vais vous mettre mes coordonnées derrière.
Merci. Oui. Et vous êtes l'éditeur ?
Voilà, moi je suis le directeur de tout ça. C'est moi qui choisis les titres, qui surveille la fabrication, la maquette, qui choisit les images, etc.
C'est édité imprimé en France ?
Non, j'ai plus les moyens, c'est trop cher.
C'est trop
j'imprime
cher.
En Bulgarie.
D'accord.
Mais dans l'Union Européenne.
Ok.
Voilà.
C'est génial.
Morinsan@aol.com.
Ok. Merci beaucoup.
PLG. Merci. Bah, je vous en prie, merci. Bonne journée.
Bon festival, au revoir.
Festival de Blois, ça fait la cinquième, Alors, on est de la région parisienne et donc on vient à Blois pour, avec des cousins pour participer au festival. On y passe les 3 jours.
Voilà, et on fait nos cadeaux de Noël.
Oui. Eh bien, en fait, on nous a fait connaître ce livre à une autre occasion, et là on a eu envie de le de l'offrir à, pour une autre personne et de le faire dédicacer pour donner un petit plus personnalisé. Et oui, on aime beaucoup la façon dont il raconte l'histoire, simplement, mais c'est profond au niveau des sentiments et des émotions. Et on ne connaît pas forcément très bien comment est la vie là-bas. On entend parler du Rwanda, du Burundi, mais...
Ça nous permet de voyager en lisant.
Exactement, ça nous a permis de nous transporter là-bas et de comprendre un petit peu mieux peut-être aussi les conflits qu'il y a.
C'est votre premier festival BD Boom en général ou vous avez déjà fait d'autres?
On est aussi allé cette année au festival de Saint-Malo, à Quai des Bulles.
Et pourquoi? Et Blois, parce que vous avez entendu parler
Blois, d'abord, c'est nos cousins qui nous l'ont fait connaître, des cousins qui ne sont pas non plus d'ici, mais de Grandville. Et eux avaient l'habitude des festivals et nous ont proposé de venir. Et ici, on aime beaucoup parce que c'est un petit peu... c'est plus petit, peut-être, je ne sais pas, que Saint-Malo, mais surtout, on a l'impression
de pouvoir... C'est plus les auteurs que les éditeurs.
Voilà, et on peut vraiment parler plus longtemps, je trouve, avec les auteurs. Et il y a une convivialité, que... Et puis on est moins, je sais pas, c'est moins stressant ici, je trouve que c'est très bien organisé.
Là vous êtes dans la file pour...
Alors là on est dans la file, oui malheureusement je crois que Sylvain Savoya
a
été un petit peu en retard dû aux conditions météorologiques, mais apparemment il a pu venir et il doit commencer les dédicaces à 16h. Oui.
D'accord.
Et voilà, et on est prêt quand même à attendre, 45 minutes, une heure, pour pouvoir avoir la dédicace et avoir la chance d'échanger avec l'auteur ou l'autrice.
Merci.
Avec plaisir. Merci.
Excusez-moi. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
J'ai vu que vous étiez bénévole aussi.
Non, je suis exposante.
Exposante. D'accord. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions
sur
le festival?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Comment
j'ai entendu parler du festival BD Boom? Je pense que c'est grâce à Léo Badiali, qui est un des auteurs de la maison, qui vient de Blois, qui habite à Nantes maintenant, mais qui est toujours très attaché à Blois. Donc vous avez parlé du salon, et donc on s'est dit qu'on allait participer. On était déjà l'année dernière, et on recommence cette année, puisque c'était génial l'année dernière.
D'accord, donc vous aimez bien tout ce qui est le milieu bande dessinée, ou parce que c'est culturel, ou parce que vous travaillez dedans?
Parce que je travaille dedans, oui, puisque je suis à la tête d'une maison d'édition, donc c'est un peu la base d'être dans des salons BD, et d'autant plus dans celui-là où j'ai l'impression qu'il y a vraiment une effervescence autour de la BD, et c'est hyper agréable à voir.
D'accord.
Votre maison, c'est édifice?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Et vous avez amené plusieurs bandes dessinées?
Oui, plusieurs de nos sorties. En fait, ça fait 2 ans qu'on existe, et donc l'année dernière, c'était le tout premier livre qu'on avait. Et cette année, on a fait x4, on a 4 BD qui sont sortis entre-temps.
Et c'est plus sur quelle thématique?
Alors, c'est des sujets assez engagés. On parle d'orientation sexuelle, d'immigration, santé mentale et harcèlement scolaire. Et on en a une qui est en campagne actuellement, qui parle de féminisme.
Et vous faites d'autres festivals? Vous comptez en faire d'autres cette
année? Oui, on en fait. Alors on fait souvent les spécialisés BD donc en région. J'ai fait Normandie Bulle puisque nous on vient de Normandie. BD Boom c'était évidemment prévu. Et puis après ce sera du coup l'année prochaine, au printemps prochain.
Okay. Et qu'est-ce qui ferait la spécificité de celui-ci? Bien que vous le connaissez pour la deuxième fois, mais...
La spécificité, je pense, c'est la richesse de la programmation culturelle pendant le festival. Il y a énormément de choses à voir. Les gens sont là, mais pour toute la journée à chaque fois, voire tout le week-end, ils vont voir des expositions, des conférences. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire.
D'accord, le programme est dense.
Oui,
et
oui.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci.
Bon courage.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Deux questions dans le cadre d'une émission de radio.
Oui.
Ce que je vois avec une BD qui s'appelle Liberté, c'est la BD, qui m'intrigue un petit peu. C'est par rapport au titre ou c'est parce que vous connaissez un petit peu
Ah non, je connais, c'est une BD historique sur l'indépendance de l'Amérique.
D'accord.
Ça se passe pendant la guerre de l'indépendance de l'Amérique. Quoi. Et puis, moi j'aime bien la BD historique. Donc,
C'est la première fois que vous venez ici?
Non, ça fait 15 ans que je viens.
15 ans? D'accord. Donc
vous connaissez déjà les auteurs ou
Là, ouais, je connais les auteurs qui ont fait, fait cette BD-là.
Fait cette BD-là.
Puis en général, les auteurs que je veux faire, oui, je les connais aussi. Il faut s'organiser, quoi.
Vous êtes de quoi?
Du tout, de Lorient. De Lorient,
ah,
en Bretagne.
Ah, vous venez de la Bretagne, vous êtes ici?
Oui, bon, enfin, en même temps, on vient chez des amis, donc on fait une pierre deux coups. Hein.
D'accord. D'accord.
Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Bonne journée. Merci.
D'abord, je sais plus, tu m'as fait belle.
Oui, c'est pour la radio.
Ah bon, alors.
Les rencontres d'Elios, l'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommery.
Les rencontres d'Elios.
Avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux, génial.